de l'évangile du Seigneur Jésus le Christ selon saint Luc. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi ». À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait bien signifier cette salutation. L'ange lui dit alors « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur, Dieu, lui donnera le trône de David, son père, il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé fils de Dieu. » Or voici que, dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils, et en est à son sixième mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors, « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, chers amis, pourquoi aujourd'hui, quatrième et dernier dimanche de l'Avent, ne pas commencer par réentendre le petit passage de l'Épître aux Romains que nous offre la liturgie de ce jour? Je cite « À celui qui peut vous rendre fort, selon mon évangile qui proclame Jésus-Christ, révélation d'un mystère gardé depuis toujours dans le silence, mystère maintenant manifesté, au moyen des écrits prophétiques, selon l'ordre du Dieu éternel, mystère porté à la connaissance de toutes les nations pour les amener à l'obéissance de la foi, à celui qui seul est sage, Dieu, par Jésus, Christ, à lui la gloire, pour les siècles. Amen. » C'est une doxologie. C'est un moment où Paul rend gloire à Dieu. Et cette doxologie nous redit beaucoup de choses, à commencer par la portée universelle de ce qui est advenu en Jésus-Christ. Il est venu proclamer un salut non pas réservé, mais largement donné, dispensé à qui veut bien le recevoir. Et nous savons combien cette perspective sous la plume de saint Paul est significative. Lui qui a longtemps eu tant de mal à franchir les limites de l'élection, les limites d'un salut réservé à quelques-uns, jusqu'à ce qu'il comprenne que le peuple élu était et demeure le témoin premier et privilégié d'un don qui le dépasse, tout comme il dépasse d'ailleurs quiconque le reçoit. C'est que être récipiendaire du salut révélé et donné dans la Torah et les prophètes, ou révélé et accompli en Jésus-Christ, ne fait de personne le propriétaire de ce salut ou de cet amour, mais n'en fait au contraire que très simplement et très modestement le témoin. Un témoin qui n'arrête rien à lui, qui ne reçoit pas pour garder, mais qui reçoit pour partager. Alors que l'Avent, tant d'attente et de désir, arrive à son paroxysme d'intensité et tout bientôt à son terme, qui est en fait un début, comme on l'a déjà dit et comme il faudra peut-être y revenir, nous pouvons nous placer dans la lumière de l'exultation de Paul pour vivre aujourd'hui ce qui est à la vérité un moment d'intimité et presque de secret. Le dialogue, et comme ce mot est important, j'y insiste, le dialogue, entre l'attente fragile et forte de la terre et du monde des hommes, incarnée en Marie, et la réponse puissante et douce du ciel, manifestée par une magnifique figure archangélique. Reprenons cela. Ce à quoi nous assistons aujourd'hui, c'est un dialogue. Dialogue singulier entre deux interlocuteurs que tout semble séparer. Une jeune fille rejointe à la fois dans son quotidien, dans sa maison, et au cœur de son espérance. On serait même tenté de mettre à ce mot un E majuscule, tant l'enjeu est important. Donc voilà pour le premier interlocuteur et l'autre, un être céleste, dont l'ordinaire, entre guillemets, si l'on peut ainsi parler, est tout d'éternité et céleste, très très au-delà des contingences de ce monde, à commencer par les plus banales, voire les plus triviales, ou pire encore et surtout les plus insupportables, la souffrance, le malheur du monde et la mort. Mais dialogue il y a. Et je voudrais dire d'abord un dialogue sous le signe de la joie. La première salutation, la première parole que dit l'ange, c'est « Réjouis-toi, Marie ». « Réjouis-toi, Marie ». L'invocation adressée à Sion qui doit se réjouir du salut qui vient jusqu'à elle. Et ensuite, après cette invitation à la joie, à entrer dans la joie du salut de Dieu, il y a ce dialogue libéré de toute crainte, avec ce qui est quand même comme un refrain de toutes les annonciations que nous pouvons rencontrer sur notre chemin, « Sois sans crainte ». « Sois sans crainte » adressée à Marie ici. Matthieu, « Sois sans crainte » adressée à Joseph. « Sois sans crainte » adressée à Zacharie, le père de Jean-Baptiste, dans l'évangile de Luc. Combien de fois, au fil des annonciations méditées ces jours-ci, avons-nous entendu cette brève et libérante phrase? C'est donc un vrai échange de paroles qui a lieu. La parole divine ne vient pas éteindre la parole humaine en lui imposant des solutions ou des réponses qui répondraient à tout, tout de suite, dans l'instant. Au contraire, la parole divine vient au devant des attentes et des espérances de l'humanité, comme si elle ne voulait préjuger de rien, mais souhaitait entendre, formuler le désir et l'attente de ceux et celles qui, de tout leur être, tendent au salut. Jésus, au cours de sa vie, ne dira-t-il pas si souvent « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Et il faut lire là la délicatesse de Dieu qui ne sauve personne, malgré lui ou malgré elle, mais attend d'entendre le désir profond de celui qui aspire au salut. Dialogue encore lorsque l'humain qui accueille la parole divine, loin de s'écraser ou de s'exécuter platement ou servilement, eu égard à l'incomparable autorité de celui qui parle, s'éveille à la proposition qui lui est faite et s'enquiert des chemins que cela va prendre. On repère ici deux attitudes de fond, invisibles à l'œil nu humain, mais que perce l'ange. Soit comme Zacharie, le cœur résiste à la proposition de salut, pas sans raison à vrai dire, mais au titre de l'évidence de tout ce qui s'y oppose. Dans le cas de Zacharie, la stérilité, le grand âge, toute chose qui relève de faits, qui saute aux yeux. C'est alors un fond d'incrédulité qui résiste à la proposition. Ou bien alors, soit que, comme Marie, c'est un autre cas, le cœur se livre, au-delà de toute raison et en dépit de toute évidence, pour vivre l'aventure du salut dans une confiance éperdue et une disponibilité incroyable à y prendre non seulement sa place, mais aussi sa part, toute sa place et toute sa part, fût-ce, et on peut dire comme c'est vrai de la Mère de Dieu, sous le signe de la plus grande humilité et discrétion. Le moins que l'on puisse dire, c'est que Marie a une manière tout à fait à elle d'être présente à tout l'Évangile, mais sous les espèces d'une discrétion qui ne laisse de donner à penser. On ne peut que noter, car cela répond à une exigence profonde de la révélation, de la logique de la révélation, on ne peut que noter le mouvement naturel de Marie d'entrer comme naturellement en dialogue avec l'archange. La révélation suscite en effet, ou devrait toujours susciter, la question ou le questionnement humain. Il n'est jamais question, dans toute l'histoire sainte qui est la nôtre, et d'abord celle du peuple élu, de recevoir sans à son tour prendre la parole, sans s'éveiller à ce que le Seigneur veut dire, sans chercher à comprendre le don que Dieu fait dans sa parole et son salut. Comment cela va-t-il se faire ? Demande Marie. Et son propos n'exprime en rien qu'elle doute de la parole de celui qui, à travers l'ange, s'adresse à elle. Elle ne doute pas de son Dieu. Et tout son Magnificat en rendra très largement témoignage. Néanmoins, elle veut entrer dans les vues du Dieu qui l'appelle à prendre sa part dans la réalisation du salut. Et cela ne va pas, ne peut pas aller sans question. Il est ce dont il s'agit ici, en effet, c'est une relation d'être à être, de personne à personne. Le Très-Haut qui attend que l'humain s'engage pour marcher, comme le faisait déjà le Baptiste, sur les chemins de la justice et de la vérité. Ce que je relève, c'est qu'on voit que Marie a tout un chemin à faire pour finalement donner son fiat, c'est-à-dire l'acquiescement non seulement de son intelligence, mais aussi en même temps l'implication de toute sa vie. D'emblée, à l'image de l'enfant qui va prendre forme humaine en son sein, elle se met à l'écoute de son Dieu. Car elle est d'abord cela, la Vierge attentive à la parole. Et ensuite, elle se fait obéissante à sa volonté. Et comment ne pas rappeler que dans ce mot de « obéir », il y a encore la trace d'une écoute poussée à l'extrême. Pour le dire autrement, mais c'est vraiment redire la même chose avec d'autres mots. Marie, elle entre en consonance avec le dessein d'amour de Dieu sur l'humanité, et elle accepte que la réalisation de ce dessein aimant passe par elle. Et je me dis qu'ici, chacun, chacune de nous peut se poser la question de sa propre disponibilité, une disponibilité qui est à deux versants. D'une part, disponibilité pour accueillir le salut que Dieu offre à chacun, et que chacun, chacune se pose la question de que signifie ce salut pour moi. Mais aussi, autre versant, eh bien, disponibilité à ce salut que Dieu offre aussi pour les autres, pour tous les autres, de sorte à s'en faire le témoin libéral de quelqu'un qui est et qui peut être vraiment très généreux avec quelque chose qui ne lui appartient pas, puisqu'il l'a reçu par pure grâce. C'est le don de Dieu, mais qui n'attend que d'être partagé, et très largement partagé. Parvenus au quatrième dimanche, nous sommes bien près de notre but, et bien près de faire les tout derniers pas jusqu'à Bethléem. Là, on se l'est souvent dit, tout nous sera donné. Mais en même temps, tout restera à découvrir, car à Bethléem, ce sera le début seulement de la manifestation de celui qui vient au nom du Seigneur. Ce sera Jésus enfant, il y aura encore tant de chemin à faire avec lui. Comme le disait le père Soulty, doyen de la faculté de théologie de l'Institut catholique de Paris qui prêchait cette année l'Avent à la paroisse Saint-Eustache à Paris, au fil de l'Avent, le voile se lève sur le mystère de l'enfant, c'est-à-dire sur le mystère même de notre humanité. L'humanité de chacun, l'humanité de chacune. L'humanité tout entière, cette communion d'êtres vivants, humains, en quête de plus en plus d'humanité accomplie, en quête de sens, en quête de bonheur, en quête de paix, c'est-à-dire de justice et d'amour. Alors que nous sommes si près du but, ne relâchons pas notre attente. Et comme je l'ai fait tous ces derniers temps, je conclus avec vous ces quelques mots par l'antienne haut de ce jour. Vous savez, cette antienne que nous chanterons ce soir, avant justement le cantique de la Vierge Marie, le Magnificat, c'est une antienne en forme d'invocation. Elle dit chaque soir notre désir, notre impatience même d'accueillir le Seigneur. Et ce soir nous chanterons « Ô clé de David et sceptre de la maison d'Israël, toi qui ouvres et nul ne ferme, tu fermes et personne n'ouvrira. Viens Seigneur pour délivrer ceux qui habitent les ténèbres, viens Seigneur, viens nous sauver. Oui Seigneur, toi qui es la clé de nos vies, ne tarde pas à venir combler notre désir et nous donner la plénitude de ta joie. Amen.